Quay.
Bonjour.
C'est Alex Wawanaloat.
Robert Blondin ici pour une autre émission de Quay. Bonjour.
Donc aujourd'hui, Robert, on commence avec un invité super intéressant. On a le privilège de recevoir Dr. Stanley Volant, qui est un chirurgien Innu, donc qui a une fondation aussi. Quoi est Dr. Volant?
Quoi, Alexis?
Ça va bien?
Ça va très bien. Namaste, malabal.
Oui, bien, on est dans des temps quand même troublés au point de vue médical quand on est un Autochtone. Moi, la mort de Joyce Echaquan, puis dernièrement, le début de l'enquête publique m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup bouleversé. Toi qui es un professionnel de la santé, un chirurgien qui a affaire beaucoup dans les hôpitaux, qui a dû peut-être voir ça, comment t'as pris tout ça? Qu'est-ce qui est arrivé avec Joyce Echaquan?
Ben, si on se remet en arrière au mois de septembre en 2020, c'était en pleine pandémie. Déjà, le temps est difficile parce que tout le monde est affecté par la pandémie. Là, on souffre tous de cette pandémie-là. On ne file pas super bien. Et là, je vois sur les réseaux sociaux quasiment la mort en direct de Joyce.
Ouais.
Ça m'a vraiment porté un coup. Là. Ça m'a frappé, ça m'a saisi. Ça m'a fait tomber sur le derrière, carrément. Parce que c'est quelque chose que j'étais déjà au courant de traitements inadéquats à cause du racisme systémique dans le système de santé. J'en avais déjà été témoin, j'en avais déjà entendu parler, mais on n'avait jamais eu de preuves, puis on m'en avait souvent rapporté des éléments, mais j'ai jamais vraiment cru, n'ayant pas de preuves. Et là, cette fois-là, c'était la preuve est flagrante. Là. Il se passe de quoi qui est secondaire à une méconnaissance, à un racisme du personnel, et on la voit mourir. Mais pour moi, ça a été une claque d'en face. Je me suis un peu dit, j'aurais peut-être pu en faire plus pour mon peuple là, avant ça. J'ai pas cru mon peuple, j'ai joué un peu à la pomme. C'est quelqu'un qui est rouge de l'extérieur, mais qui est un peu blanc à l'intérieur parce qu'il était... il est dans une grosse machine, l'establishment médical, puis
ouais.
L'establishment médical m'a comme, je faisais parti pris un peu pour la grosse machine.
Stanley, cet événement de Joliette a été absolument effrayant, mais c'est tellement effrayant que finalement, ça peut être un mal pour un bien, on va pas être cynique, mais c'est un mal pour un bien, parce que jamais les Blancs ont été aussi sensibilisés à un problème de racisme.
Oui, c'est dommage qu'il ait fallu la mort d'une femme.
C'est ça.
D'une femme, d'une mère de sept enfants pour qu'on puisse avoir cette preuve-là, parce que les éléments s'accumulaient. On n'avait pas de preuve. Et fort récemment, justement, cette semaine, il y a un article de l'Association médicale canadienne, le CMAG, le journal de l'Association médicale canadienne, qui rapporte des taux de complications nettement supérieurs pour lors de chirurgie, de mortalité lors de chirurgie.
30% hein, même.
30% de mortalité plus importante. Mais c'est sûr qu'il faut décortiquer cet article-là qui est un peu la base de la recherche, une méta-analyse. On prend plusieurs études qui ne sont pas des études prospectives. On les met dans la machine puis on en sort le jus. C'est pas de la science exacte, mais on a une tendance. Et moi, je le sais. C'est connu. C'est connu avec mes collègues autochtones, autochtones à travers le Canada. Le taux de mortalité est plus grand, mais on ne pouvait pas donner un chiffre exact, mais on savait que c'était plus grand et il y avait plus de
complications. Là, on a le chiffre, mais est-ce qu'on sait pourquoi médicalement?
Bien, il y a plusieurs explications. Puis, premièrement, il y a effectivement des comorbidités. C'est quelqu'un, les Autochtones ont 3-4 fois plus de diabète. Ils ont le taux d'obésité de 60% et c'est deux facteurs très importants en chirurgie. Quelqu'un qui est diabétique, qui est obèse, le taux de complications est 2 à 3 fois plus élevé. Donc, c'est pas étonnant, ayant une population avec des comorbidités plus grandes. Deuxièmement, il y a aussi l'accès aux soins. Les gens arrivent tardivement dans le système de santé. Puis, il y a toute la question du racisme systémique. Les gens ont peur d'aller consulter à Joliette. quelqu'un
ben,
qui
des gens aussi avaient peur d'aller consulter à Val-d'Or, à Sept-Îles. C'est pas juste un problème de Joliette.
Et à travers le Canada, c'est de cause de la côte ouest jusqu'à la côte est. Fait que, et on le sait, il y a plusieurs études déjà dans le passé qui démontraient que les gens qui étaient diabétiques arrivaient 10 ans plus tard dans le système. Donc, plus de complications, plus de mortalité. Le racisme systémique est un point important. Puis peut-être, quand tu es autochtone, tu es peut-être traité de façon différente.
Oui, ça se peut-tu qu'on y croit moins de la part du personnel médical?
Ça dépend toujours du personnel. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de faire de la sécurisation culturelle au personnel médical pour qu'ils se rendent compte que les Autochtones, ça vient pas de Mars. Là.
Mm-hmm.
On a une histoire, on a une culture, on a eu des événements tragiques dans notre histoire, comme les pensionnats, comme la loi sur les Indiens, tout l'aspect colonisateur de nos rapports avec les non-Autochtones. Fait que ça, en sachant ça, ça brise un peu les murs de racisme. Le racisme est basé sur la méconnaissance de l'un et l'autre. Fait que si on se connaît mieux, on risque de se respecter mieux.
Mais est-ce que le racisme n'est pas des fois aussi basé sur des relations de pouvoir?
Absolument. Ça, c'est, je pense que il faut décoloniser nos relations parce que le colon, le colonisateur, se croit supérieur. Il apporte la vérité en sol autochtone. C'était toujours ça, la mentalité des colons. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis dans des pensionnats. C'est pour ça qu'ils voulaient nous débarrasser de notre culture. Donc, il y a un rapport de force qui est toujours présent. Et je pense que la médecine est fortement entachée par l'aspect colonial de la culture dominante.
Les Blancs se prendraient encore pour des missionnaires, quoi, mais avec des valeurs différentes.
Absolument. Puis quand plusieurs médecins qui vont dans nos communautés dans le Nord, souvent, ils vont là avec l'esprit « je m'en vais sauver les Autochtones ». Puis, au bout d'un an ou deux, ils reviennent bien frustrés parce que les Autochtones n'ont pas fait le plan qu'ils
n'ont pas écouté le sauveur.
Et non, il faut aller là avec respect puis dire on va être des partenaires et pas je suis celui qui apporte la vérité.
Bien, justement, là-dessus, sur cette ouverture-là que la science devrait avoir, on a vu dernièrement un article où il y a une étudiante, Mi'kmaq, qui a décidé d'imposer le savoir traditionnel sur les plantes médecine dans son université d'Acadia, en Nouvelle-Écosse. Est-ce que tu penses que c'est ce genre d'initiative-là qu'il va falloir mettre de l'avant, non seulement décoloniser puis faire en sorte qu'il y ait une sécurité culturelle dans les hôpitaux, mais à la racine, quand on est formé, décoloniser le savoir aussi?
Absolument. Puis je pense que ça se fait de plus en plus. J'ai à l'Université de Montréal, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, il y a un groupe de recherche, en fait, avec qui fait partie de l'Université de Montréal, McGill et aussi de l'Université d'Ottawa, qui ont fait de la recherche sur les traitements naturels, les plantes naturelles et le diabète chez les gris. Et le protocole de recherche a été vraiment culturellement adapté.
Okay.
Au lieu de prendre le schéma non autochtone très scientifique, on a pris une approche basée sur la culture et la connaissance traditionnelle.
Mm-hmm.
Et je pense que ce genre de recherche-là doit faire école. On doit changer nos paradigmes de recherche pour s'adapter aux différentes cultures en les respectant et en valorisant le savoir traditionnel.
Puis, à l'université, j'ai pu constater ça en droit, que c'est souvent une reproduction des élites dans les programmes contingentés comme la médecine puis le droit, où on voit papa qui est médecin ou avocat qui paye les études, la Porsche à son enfant, puis tout ça. Puis on voit beaucoup cette reproduction-là, justement, d'une certaine classe dominante qui va avoir, justement, accès à l'éducation supérieure, des programmes contingentés parce qu'ils ont été dans les meilleures écoles, puis on se base seulement sur la cote R. Je sais qu'en droit, en médecine, on a de plus en plus de place pour autochtones, mais est-ce que tu penses qu'une partie de la solution viendrait à ce qu'on ouvre encore plus grand les portes des facultés de médecine ou de droit ou de programmes contingentés comme ça pour les autochtones?
Bien, je pense que la place qui est faite aux autochtones au Canada, dans les facultés de médecine au Canada, je parle des facultés de médecine, je pense qu'elle est très, très raisonnable. Cependant, le problème qu'on avait, j'étais directeur à Ottawa, on offrait 8 à 10 postes par année.
Mm-hmm.
Mais après un certain temps, on n'avait plus de candidats.
OK.
Puis, il faut les chercher, les candidats. On peut,
ouais.
S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Et d'où l'importance pour moi, j'ai créé ce qu'on appelle les écoles, les mini-écoles de médecine.
Mm-hmm.
C'est-à-dire
oui, oui, oui.
que l'université vienne dans les communautés et inspire les gens à dire, tu peux devenir médecin. Tu es autochtone, mais tu as autant de chances, tu es aussi intelligent. Fait que mes étudiants, 50, 60 étudiants qui venaient, jouaient, éduquaient, étaient mêlés avec les jeunes non autochtones. Et ces mini-écoles de médecine-là, il y en a plusieurs maintenant qui sont le fruit de ces mini-écoles de médecine-là qui deviennent des candidats. Donc, c'est important d'aller de l'avant, intéresser les jeunes dès qu'ils sont en première année. Tu peux devenir médecin, tu peux devenir avocat, tu peux devenir premier ministre du Canada. Mais il faut inculquer le rêve.
Dans cette démarche-là, Stanley, est-ce que l'exemplarité, vous êtes un exemple parfait pour ça, là, est-ce que ça a des effets aussi forts qu'on voudrait que ça en ait?
Bien, définitivement, moi, j'en ai aucun doute. J'ai des centaines de témoignages de personnes qui m'ont écrit à travers mes 10-15 dernières années en disant, Stanley, tu as marqué ma vie, j'ai poursuivi mon rêve. Tu m'as dit de croire à mes rêves, je t'ai cru et j'y vais. Et je t'ai écrit pour te dire, je l'ai faite. Puis, je pense que c'est sûr, c'est pas sur 100 personnes que je vois. Peut-être qu'il y en a 10-15 qui vont être interpellés par mon message, mais 10-15 qui vont interpeller d'autres. Mais c'est comme ça qu'on fait des petits. Je pense que c'est par l'effet domino d'avoir plusieurs leaders. Alexis, t'en es un. Puis, je pense que ton exemple aussi donne le goût à des jeunes autochtones d'aller en politique, de s'impliquer au niveau des affaires publiques, au niveau de la sphère autochtone, de défendre la cause autochtone. Puis, on parle d'exemple, mais Alexis, t'es un excellent exemple. Puis en plus, t'es jeune, tout le monde.
Ben, j'ai 38 ans, je m'en viens plus si jeune que ça. Là, mais bon.
En tout cas, t'as quand même 15 ans de plus jeune que moi. T'es encore un flot par rapport à moi, mais un flot, tu sais, qui a beaucoup d'expérience.
Oui.
Puis, mais tu sais, quand si on va dans une communauté autochtone, moi puis toi, les jeunes ont plus de chances de se reconnaître en toi parce que tu inspires plus la jeunesse.
Ouais, ben en tout cas, merci. Check it, Simitin, pour le compliment. Mais bon, justement, toi qui a parcouru Compostelle puis qui a démarré une fondation, Innu Mishkenu, qu'est-ce qui arrive avec cette fondation-là qui a pour but de promouvoir la persévérance scolaire puis des saines habitudes de vie? Comment on a géré la fondation dans le temps de pandémie?
Oui, ça, c'est la question à un million. Fait que mon organisation sans but lucratif qui s'appelle Poamoun Mishkenu. Poamoun veut dire rêve.
Pardon.
Mishkenu, le chemin. Innu Mishkenu, c'était mes 6000 km que j'ai fait de 2010 jusqu'en 2016. Et les gens, à la fin de mon projet de marche, mes 6000 km, m'ont dit, ben écoute, j'aimerais ça que tu reviennes dans mon village parce que ton message, il est à fort, puis on veut que tu le répètes.
Mm-hmm.
Les gens vieillissent, puis il y a des nouveaux jeunes, puis on veut que tu reviennes dans notre communauté, puis d'autres communautés, j'avais pas eu le temps d'y aller. Ils m'ont dit, ben c'est plate que t'arrêtes. Fait que c'est pour ça que j'ai créé Poamoun Mishkenu, le chemin des 1000 rêves, pour inspirer les jeunes à développer leurs rêves et sur le... de développer leur plein potentiel sur le chemin de leur propre rêve, parce que je veux pas tout le monde devenir médecin, mais tu sais, si quelqu'un veut devenir avocat, veut devenir policier, veut devenir architecte, pourquoi pas, ou juste d'être un parent, parce que moi, je pense que le rêve d'être un bon père ou une bonne maman, là, ça demande quasiment plus de formation que d'être chirurgien.
Mm-hmm.
Puis, les rêves, là, c'est important de les réaliser. Et nos ancêtres ont toujours été très, très centrés sur la vision, le rêve. C'est important d'aller de l'avant et c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Et en temps de pandémie, on a dû réinventer un peu la formule. On a des ambassadrices qu'on forme à distance.
OK. Comme Tina Mapachi.
C'est ça, entre autres.
Mais Nanishnabikwe.
Il y en a 9 autres qui font la même chose et qui vont un jour prendre la parole à ma place et porter mon bâton des 1000 rêves parce que, bon, j'ai 56 ans, j'en ai encore un petit bout à vivre, mais j'aimerais ça passer le bâton et ma plume à quelqu'un pour qu'il puisse faire la même chose que j'ai faite, un visage plus jeune, évidemment, Puis, juste pour faire une petite histoire, Alexis, j'ai une plume d'aigle après mon bâton des miracles, il y en a plus de 22 000.
Ouais.
Ça m'a été donné par un médecin, médecin de Manitoba qui était le président de l'Association médicale canadienne, parce que c'était comme le docteur Julien au Manitoba,
okay,
de Winnipeg, puis il s'appelait docteur Armstrong, et c'est l'Assemblée des aînés de Manitoba qui avait donné cette plume-là en disant, on te donne cette plume-là parce que tu es un défenseur de la cause de la santé des Premières Nations. Puis quand tu sentiras que ce serait le temps que tu passes quelque chose, la plume, tu le donneras à quelqu'un qui, lui, le passera à son tour.
Mm.
Fait que Dr. Armstrong a décidé en 2002. Il m'a donné sa plume en 2001. Mais moi, je compte donner cette plume-là à quelqu'un qui va défendre ma mission et qui aura sa propre vision, mais qui défendra les objectifs que je défends pour inspirer d'autres personnes à aller de l'avant et croire à leur rêve.
La prise de parole, Stanley, dont on parle ici, on entend de plus en plus dans les médias la réalité autochtone. Il y a cette émission-ci, mais Radio-Canada a un espace autochtone. Ils prévoient des émissions cet été en radio avec Alanis Obonsawin. Il y en a un peu partout. Il y a vraiment une tendance à parler beaucoup des Autochtones. Avez-vous l'impression que c'est des émissions qui s'adressent surtout aux Blancs pour parler des Autochtones? Est-ce que des émissions s'adressent autant aux Autochtones et qui les écoutent?
Peut-être moins. Je pense que les émissions... le but de Radio-Canada et le but de votre émission de faire connaître les Autochtones aux non-Autochtones, il est crucial. Et c'est comme ça qu'on va vaincre le racisme systémique, qu'on va devenir des partenaires à part entière. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que je connais, des non-Autochtones, qui sont très, très sympathiques aux Autochtones, mais qui ne connaissent pas. Et je pense que c'est important de faire connaître. Et moi, ma mission, c'est de faire connaître les nations autochtones aux non-Autochtones pour qu'on puisse devenir des partenaires vrais pour bâtir un pays pour que tous nos jeunes, peu importe leur couleur de peau, leur langue, leur religion, leur culture, puissent aspirer au même rêve et au même potentiel de réaliser leur rêve. C'est un peu mon rêve à moi. Et c'est en prenant la parole.
Mm-hmm.
C'est sûr aussi qu'il faut s'adresser aux populations autochtones. Les réseaux sont différents, c'est surtout dans les réseaux de radio communautaire ou encore par PTN qu'on peut s'adresser aux réseaux autochtones. Mais à travers Radio-Canada ou via votre émission, bien, je m'adresse aux non-autochtones en disant « Soyez des partenaires, on peut être des frères et des sœurs, puis on peut bâtir un grand pays ».
Sur ces paroles sages, Stanley Volant, on vous remercie beaucoup pour la participation à l'émission aujourd'hui. Jack Kistometon, bonne continuation dans la mission de Panu. Peu à mieux, mais que nous.
Ben, c'est moi qui te remercie, Tchanuskumbeton, Kenil, Alexis, Tchanuskumbeton, Robert, Catherine Detouillec, de m'avoir écouté. Puis, je remercie les gens de nous écouter et d'essayer de nous comprendre et qu'on puisse être des partenaires pour un meilleur futur pour le Québec.
Au plaisir, Stanley.
C'était Mamu de l'artiste Anna Shella Bellefleur.
Alexis, on va aborder nos nouvelles de la semaine. Et la première nouvelle qu'on va développer un peu, parce que tu en as parlé là, il y a quelques minutes avec Stanley Volant, c'est l'histoire de ce qui se passe à Wolfville. Là. Tous les étudiants en première année en biologie de l'université Acadia à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, doivent désormais suivre des cours d'initiation au savoir traditionnel Mi'kmaq. Grâce aux efforts d'une étudiante exaspérée de voir des perspectives autochtones ignorées en cours. Ça, c'est drôlement bien.
Ben oui, on en parlait aussi la semaine dernière avec Oudia Larivière. Comment, justement, de voir la science d'une seule façon avec la tradition académique et tout ça, puis de ne pas inclure les savoirs des peuples autochtones en disant qu'ils sont soit trop spirituels ou soit trop arriérés, c'est une autre forme de colonialisme. Donc, je dis bravo à l'Université Acadia. Je trouve que c'est une bonne initiative, puis j'espère qu'on va suivre ce modèle-là dans beaucoup de domaines dans les universités québécoises.
Une nouvelle qui tient compte d'un fait qui est douloureux, mais il faut en parler absolument. Se présenter à l'hôpital pour un enfant à naître et en ressortir sans le savoir et sans y avoir consenti en ayant donné la vie pour la dernière fois. Ce genre de situation est bien connu dans l'Ouest canadien. Mais les données n'ont pas été colligées au Québec. Je ne sais pas ce qui arrive au Québec.
Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on veut se fermer les yeux, je pense, sur le problème au Québec. Il y a eu un comité sénatorial pan-canadien qui avait été établi, puis toutes les provinces avaient décidé de participer à ce comité-là, à cette étude-là sénatoriale, pour voir qu'est-ce qu'il en était, pour avoir justement des données fiables, pour qu'on puisse vérifier qu'est-ce qui se passe. Il y a juste le Québec qui a décidé de ne pas participer à cette enquête sénatoriale-là. Donc, je trouve ça triste de voir que, on le disait encore, les femmes, que c'était quelque chose qui arrivait ici aussi, mais c'est comme si on voulait pas croire que le système pouvait justement être si discriminant. Puis, c'est encore une autre preuve que je pense qu'on devrait voir l'ensemble de cette problématique-là avec une perspective de racisme systémique.
Mais c'est du déni, parce que ça s'est passé ici aussi de...
Ben oui, c'est ça. Ça s'est passé ici aussi, mais on veut juste comme pas voir le problème. Puis on se dit quasiment que si on voit pas le problème, il y en aura pas.
S'il fallait stériliser tout le monde sans leur demander la permission, tu t'imagines où ça mène dans l'histoire du monde, ça?
Ouais, ben, aux États-Unis, on a des cas célèbres de jurisprudence où c'était la pratique... dans beaucoup d'États américains où on stérilisait ceux-là qu'on considérait comme retardés aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça.
Je voudrais m'adresser à toi comme presque avocat, en réponse à l'appel à l'action 50 de la Commission de vérité et de réconciliation, le CVR. Le gouvernement fédéral accorde un financement de presque 10 millions de dollars pour 21 projets de revitalisation des traditions juridiques autochtones à travers le pays. Ça doit faire ton affaire.
Ben, ça fait mon affaire. Est-ce que c'est trop peu, trop tard pour beaucoup de nations? Je ne sais pas. Mais oui, en tout cas, à tout le moins, ce financement-là va pouvoir aider les communautés qui sont en démarchage, comme la communauté, comme la nation Atikamekw, de pouvoir se retrouver dans leur tradition juridique. On le voit, ça fonctionne bien quand on le fait. On a 80% moins de judiciarisation en protection de la jeunesse Atikamekw depuis qu'ils contrôlent leur système.
Est-ce que toi, tu participes encore à des causes ou tu vas participer à des causes qui sont près de ces problèmes-là?
C'est possible, oui, que j'aille participer à ces causes, à des causes dans ce genre-là. On essaie d'apporter des nouvelles façons de voir les choses auprès des décideurs puis tout ça. Puis je pense qu'ils commencent à avoir une certaine ouverture d'esprit. J'espère que des actions comme celle-là vont crédibiliser justement les traditions juridiques autochtones, puis vont faire en sorte que les décideurs, comme les décideurs administratifs, les juges ou ceux-là qui ont à prendre des décisions judiciaires comme ça, vont s'inspirer de ces travaux-là, puis vont commencer à étudier ça aussi dans leur formation continue.
Alexis, tu as déjà été député, tu as choisi de faire ton droit, tu es à la veille d'être avocat. Tu as choisi le droit, pourquoi?
Pourquoi j'ai choisi le droit? Je voulais trouver une façon de continuer à pouvoir défendre les droits des peuples autochtones. J'ai un peu fait tout ça toute ma vie. En ayant justement quelque chose qui m'appartient à la politique, on peut tout le temps se faire enlever notre position sur des bases de mensonges, puis ça n'a pas rapport au travail qu'on fait. Tandis qu'en droit, ben mon bac en droit, mon diplôme, mon droit d'exercer la profession d'avocat, c'est le fruit de mon travail, puis on ne pourra jamais me l'enlever sur des mensonges.
Je trouve ça important d'en parler parce qu'il y a quelques minutes à peine, on parlait au docteur Stanley Volant et on lui demandait la question, l'exemplarité de quelqu'un qui réussit dans un domaine aussi pointu que la médecine, ça vaut aussi pour le droit dans ton cas?
Ben oui, j'imagine. On essaie de faire notre chemin puis de faire le meilleur exemple qu'on peut.
On continue après la pause. Alexis, à bientôt.
Vous écoutez Koué Bonjour avec Alexis Wawanalwat et Robert Blondin.
Qui est autochtone, qui ne l'est pas, c'est un sujet qui est toujours délicat à traiter. C'est quoi les normes d'inscription là, aux bandes autochtones? Éric Pouliot-Isdel est avec nous encore cette semaine. Merci Éric. Tu vas nous parler un peu de ce sujet-là cette semaine, Éric.
Bonjour, bonne fin de semaine tout le monde. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur les normes régissant l'inscription aux bandes autochtones, tant la loi C3 et S3 établie, disons, de 1985 à 2014 environ, c'est des normes qui ont finalement rétabli le statut de beaucoup de personnes qui avaient perdu leur statut, soit surtout les femmes qui avaient perdu leur statut en arrière des non-autochtones. Depuis la loi sur les Indiens, qui statuait que les femmes qui se mariaient avec des non-membres de la communauté perdaient leur statut. Donc, graduellement, des statuts ont été rétablis. C'était spécifiquement, ça discriminait la descendance maternelle versus la descendance paternelle, entendue selon les normes d'Ottawa. Donc, finalement, ce n'est plus les normes traditionnelles qui gèrent l'établissement du statut autochtone, mais bien les normes administratives des bureaux des affaires autochtones du Nord-Canada, autrefois appelées les affaires indiennes du Nord-Canada. C'est donc une administration qui tèle de la gérance des communautés autochtones. Un peu, c'est sous le paternalisme de la royauté britannique, puisque c'est toujours sous le joug de la loi sur les Indiens d'Ottawa, évidemment abrogé par la reine, toutes les lois du Canada. Donc, je vais me faire l'avocat du diable pour voir les deux côtés de la médaille des lacunes du registrariat des affaires autochtones relativement au membership des gens des bandes. D'ailleurs, les conseillers, en présentant les administrateurs gradués d'institutions académiques, font partie du courant observé pendant la chronique du 8 mai récemment, quand j'expliquais que l'administration des bandes par les chefs a finalement été formée par le ministère des Affaires autochtones de 1981 à 1929, qui décidait que finalement, c'était plus les chefs traditionnels de milliers d'années qui étaient les chefs, mais c'était dorénavant des gens qui seraient formés par le ministère, qui deviendraient aptes à devenir des chefs. Et on dit que c'était le paragraphe 1 de l'article 73 de la loi sur les Indiens qui dit, en 1929, ça a été établi, cette norme-là, lorsqu'il le juge utile à la bonne administration d'une bande, le ministre peut déclarer par arrêt qu'à compter de ce jour, d'un jour est désigné, le conseil d'une bande comprenant le chef et ses conseillers sera formé au moyen d'élections tenues selon la présente loi. Donc, c'était un système complètement réorganisé par le ministère des Affaires indiennes. Donc, il y a environ 230 bandes à peu près au Canada qui ont un code d'appartenance différent que le code des affaires autochtones qui est généralement trois générations. Donc, une personne, ses enfants et ses petits-enfants ont le statut. Après ça, ils n'ont plus le statut, ils perdent le statut autochtone. Donc, la sélection du membership, on peut le voir, comme par exemple au Québec, les meilleurs exemples qu'on a, c'est à Odanak et à Kanawake. À Kanawake, c'est uniquement deux générations qui peuvent statuer en tant qu'Autochtones. Donc, c'est un peu limitant jusqu'à un certain point, malgré que c'est matriarcal. Donc, il faut que ce soit ta mère ou ta grand-mère et ou ta grand-mère qui sont autochtones. Donc, pour suivre la lignée matriarcale, pour faire partie de la nation iroquoise. À Odanak, eux, ils ont un autre cadre d'appartenance pour résider 2 ans sur la bande et participer pour être membre. Toutefois, les normes ayant régi ce membership-là, c'est pas la bande intégrale, parce qu'habituellement, quand il y avait un vote avec les chefs traditionnels, le chef traditionnel exposait la situation à toute la nation. Ça pouvait prendre des fois plus qu'une journée. Et puis, toute la nation votait. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont hors communauté, des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas être présents aux réunions et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit souvent, comme dans nos populations aussi, les populations québécoises et canadiennes, c'est que souvent, il y a juste 10 à 20 de la population qui vont voter, parfois plus, mais dans les communautés autochtones, c'est souvent 10 à 20 de la population qui prennent part aux décisions et aux élections et aux votes, ainsi de suite. Ça reste tout de même une minorité qui prend des grandes décisions sur une population entière. Donc, c'est le petit côté qui est un peu comme une abysse, un peu moralement et légalement. Donc, ils peuvent tantôt choisir qui va être éligible au membership ou qui sera expulsé du membership. Donc, c'est une lacune parce qu'autrefois, comme je disais, les décisions étaient prises par tous les membres suite aux orations qui pouvaient durer plus qu'une journée par les chefs qui exposaient toute une série de normes, puis ils demandaient les opinions des gens et tout cela. Donc, c'était vraiment traditionnel dans un cercle. Tout le monde avait la parole. De plus, aujourd'hui, on a une foule de membres qui sont hors communauté, qui sont inscrits par le ministère des Affaires autochtones à la bande. Donc, c'est comme une lacune administrative, ces inscriptions-là par Ottawa, parce qu'on ne sait même pas si ces gens-là qui sont inscrits à la bande ont la culture ou s'ils ne l'ont pas. Puis ça aussi, ça peut causer une grande lacune, c'est que toutes sortes de gens sont enregistrés, puis à la fin, n'importe quel membre qui regarde la liste de membres, il va réaliser que finalement, il y a peut-être 60 % des gens qu'il ne connaît même pas sur la liste de membres. Ça devient un peu une forme d'abysse administrative. Ces décisions qui ne sont pas prises sous les normes traditionnelles, mais sous les normes administratives euro-occidentales, donc implantées depuis l'organisation des conseils de banque, qui ont pris forme de 1881 à 1929, comme la loi que je mentionnais. Puis dans le cas, par exemple, de Kanawake, c'est des normes matriarcales traditionnelles qui sont prises en compte. Mais malgré les quotas traditionnels, c'est-à-dire la norme matriarcale qu'il faut que ça soit ta mère, ta grand-mère, c'est tout de même, ça limite quand même à 2 générations. Donc, il y a un aspect de la tradition qui est comme perdu, étant donné que ça coupe à 2 générations. Mais le matriarcat se poursuit tout de même après 2 générations. Donc, même si en principe, c'est un droit fondamental, c'est quand même un fonctionnariat des bandes créées par l'administration des affaires autochtones qui mène le bal. Ça demeure, jusqu'à un certain point, ultimement colonial. C'est ça l'abysse de la culture de la formation académique universitaire, disons, euro-occidentale, c'est que c'est ce que ça crée en communauté autochtone, un déchirement entre les traditions et puis cette nouvelle administration-là de gérance tant au membership qu'au service offert aux communautés. Et souvent, dans les médias, on entend juste le point de vue des administrateurs, des conseillers, des gens de la bande qui représentent pas nécessairement la population. Puis étant donné que c'est plus des chefs traditionnels, souvent, dans nos communautés, on va les appeler les maires. Ça n'a plus rien à voir avec le terme traditionnel de chef. C'est finalement plus des maires administratifs que des chefs. De faire une certaine part des choses, ça devrait être organisé, disons, dans le but d'éviter que les membres, les nouveaux membres depuis 1985 à 2014, qui n'ont jamais cohabité avec dans la communauté ou vivent dans les mœurs et coutumes, sont soudainement inscrits par Ottawa, ben, il faudrait, je pense, qu'il y ait probablement un juste milieu là entre les décisions des aînés traditionnels et des administrateurs fondés par Ottawa, disons. Donc, comme une adhésion entre-t-elle en vigueur, bien, selon la loi sur les Indiens, c'est littéralement 3 générations, mais il y a quand même plusieurs bandes là, qui ont un propre code d'appartenance et tout ça. Le code d'appartenance, il entre en vigueur le jour où c'est voté par le conseil de bande, encore une fois, c'est ça la lacune, c'est que c'est pas à la population entière. Parfois, ils vont faire deux, trois réunions vite, vite, dire, bon, ben ce soir, on consulte la population. Finalement, il y a 20 personnes sur 6000 qui se présentent, mais c'est considéré quand même comme une consultation de la population. Fait que c'est probablement un des plus gros abysses problématiques d'organisation de la communauté. Une fois qu'une des Premières Nations, donc, qui a organisé sa liste de bandes comme Kanawake et Odanak, qui ont organisé des critères spéciaux, soit habiter 2 ans avant d'être membre, ou juste des générations limitées, ils vont aussi avoir le contrôle sur la liste de bandes et tout ça. C'est quand même un aspect d'une bonne gérance, un peu plus indépendant. Mais en même temps, on a tout le droit à nos opinions, puis on peut ne pas être d'accord avec la bande. Et puis, ça peut être une lacune parce que il y a des gens, par exemple, qui, à Kanawake, qui ont été retirés de la liste de bande, qui sont présentement en cours avec les nations, avec les droits de la personne et tout ça. Parce que on a tous le droit à nos opinions. Alors donc, ils parlent autochtone en plus, ils parlent la langue, ils connaissent très bien les traditions, mais ils sont retirés de la liste de bande. C'est là qu'il y a vraiment une grande lacune entre la tradition puis la gérance administrative des conseils de bande et des normes imposées là, par ces lois-là. C'est toutes sortes de complexités, de mœurs et coutumes comme ça qui sont rencontrées dans plusieurs communautés. Et puis, c'est constamment le litige de la tradition versus l'administration. On peut dire que la loi sur les Indiens a créé un néant juridique, moral et social relativement aux mœurs et coutumes du membership et de qui peut se sentir membre d'une bande ou non. Alors, j'espère que ça a pu vous éclairer sur ce phénomène-là. Donc, bonne fin de fin de semaine à tout le monde. Merci, bonjour.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pardon de t'avoir perdu. C'est pas toi, mais moi qui a fait exprès. Pardon, j'ai manqué l'arrêt. Ton visage est caché par la ville. Ta main t'enrage, tu ne respires plus. Et j'irai voir toutes tes créations, plus croire aux grandes attractions et posséder l'or de faire plus attention. Temps perdu, même si ta route est ardue, allons longer des vins en canot et être comme les cheminots. Accepte-tu comme j'irai voir toutes
C'était Dans tes veines en canot de l'artiste Canen.
Alexis, j'ai entendu et écouté avec ravissement cette semaine un balado formidable, ça s'appelle Okinom. Mm-hmm. C'est une œuvre d'Émilie Monet, mais je veux dire un peu de quoi il s'agit, parce que ça se fait en trois langues. Il y a la voix, la musique, il y a du bruitage, des effets sonores. Une œuvre que j'ai vraiment aimée, très, très moderne, de structure, très, très défaite, qui ne suit pas. Heureusement, ça brise la linéarité du temps. J'ai adoré ça. C'était fait par Émilie Monet, qui est avec nous. Bonjour.
Quoi? Bonjour.
Hey, vous êtes une artiste plurielle, on dit pluridisciplinaire, on pourrait dire plurielle aussi. Vous faites toutes sortes... Qu'est-ce que vous faites comme art pluriel?
Oui. Ben, je dirais principalement, je suis en théâtre, mais ma pratique incorpore beaucoup le son, la dimension sonore, performative aussi, puis les nouvelles technologies aussi. Là. Donc, c'est un peu tout ça que j'infuse dans ma pratique.
En résidence au Centre du théâtre d'aujourd'hui, j'étais là longtemps moi-même, je suis ravi de vous y voir. Vous y faites quoi exactement comme résidence là au théâtre d'aujourd'hui?
Ben, c'est le théâtre, en fait, qui offre des résidences à des artistes. Donc, ils m'ont offert cette résidence il y a 3 ans. Donc, c'est une résidence de 3 ans. Et c'est dans le cadre de cette résidence-là que j'ai écrit ma première pièce, donc Okinom, dont vous avez parlé. Et j'ai présenté aussi un autre spectacle l'année dernière, qui est un spectacle autour des mots, plus un spectacle performatif, donc où chaque invité s'emparait d'un mot dans sa langue autochtone et puis présentait une performance. Et puis là, je développe un nouveau projet qui traite de Marguerite Duplessis, qui était la première personne autochtone à avoir eu un cas juridique ici au Canada, en Nouvelle-France. Donc,
on reviendra d'ailleurs sur le cas de Marguerite, peut-être en fin d'interview, si on peut avoir le temps. Mais là, je voudrais que vous parliez un peu d'Okinom. Ça signifie barrage, hein, ça c'est sûr. Parlez-moi, racontez-moi ça un peu, c'est assez exceptionnel.
Oui, ben en fait, c'est venu, ma pratique s'inspire beaucoup de mes rêves aussi, donc c'est un rêve récurrent que j'ai fait 3 fois d'un castor, mais qui a la taille d'un ours, qui vient me rendre visite dans mon rêve, puis qui me parle des paroles, je les appelle des paroles magiques, parce que ça m'a pris du temps à essayer de les déchiffrer, ces paroles-là. Puis en fait, le spectacle, c'est toute une quête sur les paroles que me dit le castor. Et à partir de là, s'entremêle en fait toute une réflexion sur l'identité, sur les femmes dans ma famille, mais aussi sur... à l'époque où je l'écrivais, on m'avait diagnostiqué un cancer, en fait, dans la gorge. Donc, c'est comme devenu, en fait, une réflexion poétique sur les barrages, comme moi, finalement, mon cancer, c'était comme un barrage dans la gorge. Donc, c'est comme toute une histoire un peu assez personnelle, là, quand même, de moi puis de mon cheminement à travers tout ça.
Et de votre identité multiple. Mais juste une brève parenthèse, le cancer, c'est guéri?
Oui, c'est guéri.
Bon, ça, c'est l'affaire de régler, tant mieux.
Oui.
L'identité multiple, parlez-moi un peu de cette réalité d'identité multiple.
Ben, je pense qu'on a plusieurs identités. Déjà, il y a notre identité sanguine ou culturelle. Moi, ma mère est Anishinaabe algonquine, mon père est français, donc j'ai grandi entre l'Outaouais et le Finistère en Bretagne. Donc ça fait déjà partie de mon identité. Après, il y a les langues aussi. Donc c'est pour ça que la balado, le spectacle est en 3 langues, parce que c'est les 3 langues de mon identité, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'Anishinaabemowin. Puis après, je pense qu'on a d'autres identités comme le fait d'être femme, le fait d'être artiste. Tout ça se mêle, en fait, et crée quelque chose de plus nuancé puis complexe que des boîtes compartimentées, je dirais.
3 langues que vous connaissez bien, mais les auditoires ne les connaissent pas nécessairement toutes les 3, par exemple.
Non. Mais pour moi, c'est important aussi que les spectateurs ou l'auditoire puissent être baignés dans la musicalité aussi de ces langues-là. Puis bon, l'Anishinaabemowin, c'est pas une langue qui m'a été enseignée à la naissance, c'est la langue de mon grand-père. Mais j'ai dû me la réapproprier avec le temps. Puis c'est vraiment à travers ma pratique artistique, je dirais, que je suis capable de progresser le plus aussi.
Moi, j'ai remarqué que selon les langues employées, votre voix change un peu. Hein?
Oui, c'est vrai. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est le sujet aussi d'une prochaine création, d'être polyglotte ou de parler plusieurs langues, parce que c'est vrai qu'un un rapport affectif, sensoriel aussi, qui est très différent par rapport aux langues qu'on parle. Je trouve que l'Anishinaabemowin, pour moi, ça me connecte plus aussi avec, ben, avec mes ancêtres, évidemment, avec le territoire, puis aussi avec le monde des rêves aussi, je dirais.
Bon, parlons-en des rêves, parce que c'est très important pour vous. C'est venu d'un rêve au départ, puis là, avec le castor qui est gros comme un ours, vous en fumez du bon ou non?
Non, mais en fait, c'est grâce à ce rêve-là que j'ai appris qu'en fait, les castors géants ont réellement existé. On a trouvé des fossiles un peu partout là, en Amérique du Nord. C'est autant de l'ère de glace. Et puis, c'est en fait, à un moment donné, je prenais la route avec Joséphine Bacon, qu'on allait toutes les deux présenter au festival à Taloucan, à Mastoyache. Et donc là, elle me racontait qu'elle avait habité avec un castor ici à Montréal. Et puis là, elle m'a dit, mais tu sais, les castors géants ont réellement existé. Donc là, elle m'a comme raconté des histoires. Puis à partir, c'est vraiment grâce à mon rêve, en fait, que j'ai pu apprendre à propos de leur existence. Puis là, ben là, j'ai pu connaître les histoires traditionnelles autour des castors géants aussi.
Le rêve, c'est très près de l'intuition. C'est une force pour une créatrice comme vous, l'intuition.
Oui, définitivement, oui. Pour moi, c'est un de mes terreaux principaux d'inspiration, définitivement.
Votre adhésion au théâtre, c'est aussi une adhésion à tout ce qui est cérémoniel. On le sent très bien dans le balado que c'est une longue cérémonie, hein?
Mm-hmm. Ben peut-être parce que c'est un projet très personnel. C'est ma première pièce aussi de théâtre. Donc j'ai l'impression que ça a été un peu comme un peu un accouchement de ma voix d'artiste, en fait, surtout en théâtre. Et maintenant que c'est fait, maintenant j'ai comme l'impression que ça m'a ouvert la porte vers des choses peut-être plus globales ou moins sur l'intime, mais plus ben, sur les traces de l'histoire, sur la mémoire. C'est ces thèmes-là maintenant qui me tente de fouiller davantage.
Il y a une chose qui m'intrigue, c'est que bon, vous avez eu un cancer qui est maintenant réglé, qui est guéri, un cancer de la gorge, mais vous dites quelque part que la mémoire, c'est la source de la guérison. Il faut passer par la mémoire pour guérir. J'aimerais ça que vous me parliez, vous développiez un peu ce sujet-là.
Oui, ben je pense que ça appartient justement à toutes ces eaux profondes et mystérieuses de l'intuition, du ressenti et tout ça. Et je pense qu'il y a des façons différentes de réactiver la mémoire, des fois, bon, surtout dans un contexte historique pour les peuples autochtones où on a vraiment tenté de couper justement cette transmission et ces liens à cette mémoire de nos ancêtres, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier ces enseignements ou cette mémoire qui ne nous a pas été transmise? Donc, je pense que l'art, les rêves, tout ça, c'est des façons de pouvoir y réaccéder quelque part.
Quelle sorte de réaction vous avez eue aux gens qui ont écouté, comme moi, ce balado?
Vraiment des super beaux retours. C'est assez touchant, en fait. Puis bon, ça a été aussi un peu une surprise aussi de l'adapter parce que c'est une pièce de théâtre à la base. Donc là, on en a fait un objet différent pour les oreilles. Mais étant donné que moi, dans ma pratique, j'aime beaucoup enregistrer, documenter ma vie. Donc là, j'avais beaucoup enregistré mes cours d'Anishinaabemowin où j'avais fait des entrevues. Donc de pouvoir les intégrer à cette proposition-là, ça s'est fait vraiment super bien. Donc oui, c'est un objet différent. Puis je pense que ce que les gens, les retours que je reçois beaucoup, c'est que c'est assez immersif, que les gens sont là avec moi dans le rêve, que normalement c'est très riche. Donc je suis contente là.
Alexis?
Tu nous parlais justement de cette source de guérison qui est la mémoire. Avec qu'est-ce qui arrive dernièrement avec Joyce Echaquan, tout le racisme que les femmes autochtones vivent, puis que maintenant on le montre, puis tout ça, est-ce que tu penses que une création comme Marguerite pourrait être utilisée dans des cadres de formation pour donner un exemple plus large de qu'est-ce que c'est la discrimination envers les femmes autochtones? Marguerite qui est ta future création.
Mm-hmm. Ben oui, je pense que ça peut vraiment définitivement servir comme outil pédagogique et de sensibilisation et de rapprochement. parce que c'est une histoire qui est vraiment méconnue. Puis moi, ce que je veux que les gens retiennent de ça aussi, c'est que les réalités actuelles, elles prennent un fondement, racine dans des lois, dans des systèmes qui ont été établis dès le début de l'arrivée des Français et des Anglais. Donc c'est pas nouveau tout ça. Les liens sont très entre l'histoire de Marguerite. Son procès a eu lieu en 1740. Donc Marguerite Duplessis, c'était une esclave. C'était une femme autochtone qu'on avait mis en esclavage et puis qui a été ensuite achetée pour être revendue en Martinique. C'était le cas de plein d'esclaves autochtones d'ici qui étaient revendus dans les Caraïbes.
Ah oui.
Et elle, alors qu'elle attendait d'être déportée, elle a décidé d'entamer un procès pour faire reconnaître sa liberté. Et c'était la première fois que ça arrivait. Évidemment, elle a perdu son procès parce qu'à l'époque, le juge lui-même était propriétaire d'esclaves. Tout le monde était propriétaire d'esclaves. Donc c'était inconcevable qu'une femme autochtone, esclave en plus, puisse gagner son procès. Mais elle a mis les balises de ça. Puis pour moi, puis pour les interprètes qui sont avec moi dans ce spectacle-là, c'est vraiment de voir à quel point ben le feu de Marguerite, il nous habite, il a été transmis au fil des générations, même si sa mémoire est occultée. Mais le travail, c'est de ramener cette mémoire-là à la surface, puis de vraiment voir à quel point notre feu de résistance, puis il est grâce à ces femmes-là
Un travail de mémoire important que moi, je n'avais jamais entendu parler de l'histoire de Marguerite.
Ah, moi non plus.
Ouais.
Je ne savais même pas qu'il y avait des Autochtones qui avaient été mis en esclavage.
Ah, ouais, c'était très courant. Ça, je le savais, là, mais comme
ben, moi, comme vieux blanc, là, je ne le savais pas.
Ouais. Ben moi non plus, je ne le savais pas jusqu'à ce que je déménage à Montréal, à Mooneyong, au Jojage. Je le savais pas, puis j'avais fait un tour, c'était un tour touristique, mais ça s'appelait l'autre Montréal, et il y avait un focus sur Montréal autochtone. Donc à un moment donné, la guide s'est arrêtée dans le vieux Montréal, puis a parlé de Marguerite Duplessis, et j'en avais jamais entendu parler, et j'étais même pas au courant moi non plus qu'il y avait des
esclavages. On a très hâte de voir cette Marguerite, Émilie Monnet. Merci beaucoup de votre présence, l'émission s'achève ainsi. Avec Alexis Wawanolowat.
Kikimigwetch.
Ah, salut, de Robert Blondin ici. Tout le monde est là, Guérin, tout le monde est là. Alors, la semaine prochaine.